Le journal, Lydiane Guenin.
Bonjour. Une coopérative pour promouvoir le photovoltaïque à Bienne. La cité célandaise a mis sur pied un projet participatif pour promouvoir l'énergie solaire. Entreprises et particuliers peuvent y adhérer. Non aux cours à distance à l'université de Neuchâtel, c'est le cri de la FEN. La Fédération des étudiants neuchâtelois demande au gouvernement cantonal de refuser cette mesure mise en consultation mercredi par le Conseil fédéral. Wengen va vibrer pour sa première descente du week-end. Les premiers skieurs vont s'élancer à 12h30 dans la station bernoise et Beat Feutz va tenter de décrocher sa première victoire de l'hiver. Du côté de la météo, les derniers brouillards de plaine se dissipent et laissent place à une très belle journée, ensoleillée mais assez froide avec une légère bise. La ville de Bienne fait un pas de plus vers l'énergie solaire. Elle vient de lancer une nouvelle coopérative. Son but, promouvoir le développement du photovoltaïque dans la région biennoise. Présentée ce matin, cette initiative veut contribuer à l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Le principe est assez simple. Chaque membre achète une ou des parts sociales de 500 francs et l'argent est utilisé pour construire de nouvelles installations solaires sur les toits. Entreprises comme particuliers peuvent adhérer, mais quel est l'intérêt des propriétaires à investir dans ce projet? La réponse de la présidente de la coopérative solaire région Bilbienne, Barbara Schwickert.
Bon, pour un propriétaire, c'est déjà pas lui ou bien elle qui doit investir. C'est vraiment la coopérative qui investit, qui gère après aussi l'installation. Et puis en même temps, le propriétaire, il peut, s'il veut, consommer cette énergie produite directement sur son toit. Bon, il paye quand même le courant, ça oui, mais ça il va faire en tout cas. Mais là, il aurait vraiment l'avantage aussi d'avoir du courant directement produit sur place et de l'énergie renouvelable.
En tant que locataire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut devenir membre?
Pour des locataires, locatrices, on peut investir maintenant dans des panneaux solaires. C'est normalement pas possible. Moi, par exemple, je suis locataire, je ne peux pas investir dans une installation solaire sur le toit de cette maison où j'habite. Et puis là, je peux participer et puis réaliser et promouvoir en même temps des installations solaires dans notre région.
La ville de Bienne se dit convaincue par ce système participatif. Elle explore déjà comment développer l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. La directrice des travaux publics de l'énergie et de l'environnement, Lena Franck.
On est en train d'étudier un peu tous les grands bâtiments, notamment les écoles qui ont un grand potentiel. Et après, bah, c'est aussi clair, si on construit des nouveaux bâtiments, que là, ça va être une option. Donc, il y a notamment la Champagne et aussi les salles multisports où ça va être une thématique dedans.
Donc, la ville de Bienne investit elle-même dans cette coopérative. À quelle hauteur? Quelle va être la contribution?
Bah, la contribution, c'est 30% des coûts des installations photovoltaïques sur le toit soi-même. Donc, c'est individuel de toit au toit, si on veut comme ça. Mais c'est toujours les 30% qui sont payés par la ville.
Un sujet de Diana D'Acosta. Difficile pour l'heure de savoir quand est-ce que les projets de la coopérative solaire région Bilbienne entreront dans leur phase concrète. Elle espère pouvoir lancer les premières installations encore cette année. Réalité ou fiction, c'est autour de cette thématique que s'articule la nouvelle saison du Centre culturel de la Prévôté. La programmation jusqu'au mois de juin a été présentée ce matin à Moutiers. Elle compte 13 temps forts lors desquels les artistes traitent de sujets liés à la période que nous vivons ou justement cherchent à s'en évader. Les 6 derniers mois n'ont pas été faciles pour le CCP. Alors que la culture reprenait sa place malgré la pandémie, le public a lui peiné à répondre présent. Animatrice et programmatrice Brigitte Collin nous explique comment le Centre culturel de la Prévôté compte relancer les affaires.
On voulait vraiment inviter le public à des moments de rencontre, donc on a vraiment appelé tous les mois les moments qui vont se passer, donc ça peut être soit sur un jour, la rencontre théâtre, la rencontre musique, la rencontre humour, ou ça peut être dérivé sur tout un week-end. On aura les rencontres improvisées sur 3 jours, les rencontres du théâtre amateur, tout de suite la semaine prochaine sur 2 jours. On va à la fête de la danse sur 3 jours. Le festival des petites oreilles qui va fêter ses 30 ans sur 4 jours. Enfin, et vraiment dire aux gens, venez, c'est le moment où on peut se rencontrer. Vous pouvez vous rencontrer entre vous. Vous pouvez rencontrer évidemment les spectacles qu'on vous propose.
On peut dire qu'il y a 13 temps forts. Est-ce que vous avez un coup de cœur ?
Moi, mon coup de cœur, c'est toujours évidemment le jeune public. Donc, ça va être peut-être le 30e Festival des Petites Oreilles.
Dans ce cadre-là, il y a un rendez-vous avec le Théâtre du Jura, nouvelle scène dans le monde culturel.
Oui, notre première collaboration donc, avec le Théâtre du Jura. Ils feront partie donc, de ce 30e Festival des Petites Oreilles et en proposant le 9 avril une nuit au théâtre où donc, les enfants pourront aller dormir après avoir vu un spectacle dans le théâtre avec leur sac de couchage.
Des propos recueillis par Émilie Moumentaler. Vous retrouverez la programmation complète du Centre culturel de la Prévôté pour les 6 mois à venir en lien sur notre site internet. La Fédération des étudiants neuchâtelois ne veut pas que les universitaires doivent à nouveau suivre les cours derrière un écran depuis la maison. Dans un communiqué diffusé hier, la FEN enjoint le Conseil d'État neuchâtelois à répondre à la consultation fédérale lancée mercredi en refusant l'enseignement à distance à l'UNINE. Un retour en arrière aurait des conséquences selon la vice-présidente de la FEN, Maëva Charlelio, pardon.
Déjà, l'impact serait principalement mental, psychologique, un coup dur, retour à la case départ, dans le sens que beaucoup d'étudiants, et comme tout le monde, on espérait que ce soit un chapitre clos et qu'ils ne reviendraient pas. Et là, ce serait un peu une boucle sans fin, de nouveau à distance, de nouveau loin de ses camarades, de nouveau derrière un écran, toute la journée avec l'impression d'être devant une vidéo YouTube constamment, sans échange avec les gens. Il faut quand même noter que moi, personnellement, étant donné que j'ai commencé l'université l'année passée, donc en plein système à distance, on l'a remarqué, c'est qu'avec mes camarades de ma volée, on ne se connaît pas tellement puisqu'on s'était presque jamais vus l'année passée. Et là, on a eu quelques mois où on a pu enfin un petit peu se découvrir et de se dire, bah non, c'est déjà fini, on retourne à la maison. C'est vrai que c'est un coup psychologique, surtout que là, on a eu quelques mois en présentiel. On a eu goût à la vie normale, on a eu goût même un peu aux soirées universitaires, tout ça, tout ce qu'un étudiant aime pouvoir vivre, il devrait pouvoir vivre. Et maintenant, on nous le retire à nouveau. C'est vrai que le yo-yo est vraiment très très pesant.
La Poste suisse face à une pénurie des timbres à 5 et 10 centimes. Depuis le 1er janvier, l'envoi de lettres en courrier A et B a augmenté de respectivement 10 et 5 centimes. La Poste suisse avait donc fait produire et mis à disposition de nouveaux timbres pour compléter le montant des anciens. Mais depuis quelques jours, l'entreprise postale subit déjà une pénurie. Les explications de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami.
Peut-être faites-vous partie des personnes qui sont récemment reparties bredouille d'un guichet après avoir tenté de vous procurer des timbres complémentaires à 5 ou 10 centimes. Alors que le géant jaune en avait commandé 56 millions, il n'en a reçu que 18 millions et certaines filiales n'en possèdent déjà plus. Il est cependant toujours possible de se procurer des timbres de 1 franc 10 et de 90 centimes afin d'envoyer des lettres aux nouveaux tarifs. Porte-parole de la Poste, Stéphane Downer, dévoile les raisons de cette rupture de stock.
C'est vraiment dû à une pénurie de papier à l'imprimerie, ce qui a mené au fait qu'on a reçu pas tous les timbres qu'on a commandés à temps. Et en même temps, les gens ont vraiment acheté beaucoup de ces timbres complémentaires. Et en ce moment, effectivement, il est vrai que dans certains offices postaux, il n'y a pas assez de timbres complémentaires.
En attendant, la Poste fait preuve actuellement d'une certaine tolérance pour les enveloppes affranchies avec le montant de l'ancien tarif et déposées dans les boîtes, comme le confirme Stéphane Downer.
En ce moment, en janvier, par contre, même s'il y a quelqu'un qui utilise un timbre de 80 centimes pour un courrier B, nous n'allons pas lui facturer la différence au mois de janvier pour effectivement avoir une petite phase transitoire.
Le porte-parole rappelle que l'on peut toujours commander ses timbres en ligne sur le site de la Poste et que de nouveaux arrivages sont attendus ces prochains jours.
Hong Kong utilise les gros moyens pour freiner la propagation du variant Omicron. L'aéroport de la métropole n'accueillera plus les passagers en provenance de plus de 150 pays, dont la Suisse, même pour un transit. Cette suspension concerne tous les pays classés à haut risque par les autorités sanitaires. Cette mesure entrera en force dimanche pour une durée d'un mois.
Vous écoutez RJB, il est midi 25.
Sport. Nouveau rebondissement dans l'affaire Novak Djokovic. Le gouvernement australien a à nouveau annulé aujourd'hui et pour la deuxième fois le visa du joueur de tennis serbe. Cette décision intervient 3 jours avant le début de l'Open d'Australie et met sa participation en danger, Margot De Agostini.
Novak Djokovic ne peut toujours pas disputer l'Open d'Australie de tennis. Et pour cause, le gouvernement australien a rejeté aujourd'hui pour la deuxième fois le visa du joueur serbe qui n'est pas vacciné contre le Covid-19. Cette décision a été prise sur des bases sanitaires et d'ordre public. Le ministre australien de l'immigration s'est dit fermement engagé à protéger les frontières australiennes. Un point de vue soutenu par le Premier ministre Scott Morrison. Même si le numéro 1 mondial s'entraînait encore aujourd'hui sur les terrains de Melbourne, il devra donc peut-être plier bagages et attendre avant de pouvoir remporter son 21e titre du Grand Chelem. Pour sa défense, Djoko a demandé d'empêcher son expulsion, une réquisition que la justice australienne vient d'accepter. L'affaire reste donc à suivre, mais une chose est sûre, son premier tour face à son compatriote Miomir Tkechmanovic au premier tour de l'Open d'Australie est donc en suspens pour le moment.
Wengen vit aujourd'hui la première de ses deux descentes de Coupe du Monde. Les skieurs vont s'élancer d'ici quelques instants à 12h30 sur un Lauberhorn en version raccourcie. Un Suisse figure parmi les grands favoris. Il s'agit de Beat Feutz, triple vainqueur à Wengen. Le Bernois a remporté le classement général de la descente lors des quatre dernières saisons, mais il court toujours après sa première victoire cet hiver. Beat Feutz pointe actuellement au 5e rang de la discipline, mais il n'abdique que pas pour autant.
Les quatre dernières saisons, tout a super bien marché pour l'obtention de ce globe de cristal. Mais on l'a vu, il suffit parfois d'une faute pour passer à côté. Cette année, je pars d'un peu plus loin, mais il reste suffisamment de courses. Ces 10 prochains jours, on aura autant de descentes que celles courues depuis le début de la saison. Tout ça pour dire que je ne pense pas vraiment au globe, parce que beaucoup de choses peuvent encore se passer.
La Suisse pourra également compter sur Marco Odermatt. Le Nidwaldien s'est imposé hier lors du Super G disputé dans la station de l'Oberland bernois. Marco Odermatt nage ainsi en pleine confiance. Il aborde toutefois la descente du Lauberhorn avec beaucoup d'humilité, comme il l'a confié hier à l'issue de sa victoire en Super G, Marco Odermatt.
Non, je ne sais pas. Prêt, c'est le mot faux pour cette descente. Mais bien sûr, la course aujourd'hui fait une grande confiance avec la courte descente. Et je pense pour samedi, c'était plus difficile. Et le départ était très difficile pour un skieur géant. Mais je vais, oui, faire un bon course.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Wengen, Hugo da Custodia. Le départ de la première descente de Wengen sera donc donné d'ici quelques minutes à 12h30. L'information quant à elle revient à 13h. Je vous souhaite un très bel après-midi.